Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver comme chaque week-end pour un nouveau numéro du meilleur de Sud Radio. Pendant cette prochaine heure, je vous propose qu'on réécoute ensemble des extraits des temps forts de cette semaine dans nos émissions. Et on commence avec le Loft Music. Lundi, Yvan Cujus recevait la chanteuse Enzo Enzo, venue présenter son tout nouvel et septième album intitulé Au Calme. Un album dans lequel la chanteuse raconte avec bienveillance les bonheurs de la vie et les plénitudes de la maturité, à mi-chemin entre le jazz et le folk. Écoutez.
Le Loft Music Sud Radio, 20h-21h, Yvan Cujus.
Merci d'être avec nous. Nous attaquons cette semaine en direct dans le Loft Music, comme tous les soirs. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez nous voir sur le Facebook Live du Loft ou de Sud Radio pour voir si vous pensez qu'on a passé un bon week-end, si on est reposé, détendu, voire même heureux, on ne sait jamais. En tout cas, ce soir, j'en suis heureux, moi précisément, de la recevoir dans le Loft en direct, Enzo Enzo.
Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main.
Selon la terminologie consacrée, lorsque les médias s'intéressent de nouveau à une artiste de talent, on parle du grand retour. Donc c'est le grand retour d'Enzo Enzo. On parlera notamment de son nouvel album Au Calme. Et puis coup de projecteur sur un jeune artiste belge qui danse sous la pluie et qui marche fort dans son pays. Il s'appelle Antoine Armédan. Il est soutenu par chez nous, par Vianney, et on avait envie de vous le présenter ce soir dans le Loft. Bonsoir à tous, merci d'être là. La table est riche, elle est magnifiquement occupée. Une guitare, une voix, des nouveaux talents dans...
Un jeune homme.
Un jeune homme, j'allais dire. C'est désagréable de dire ça direct, parce que est-ce que la caractéristique qui est la tienne serait d'abord d'être jeune?
Je ne sais pas trop.
Moi non plus, j'aime pas parler d'âge. Bonsoir Enzo Enzo.
Bonsoir.
C'est vrai, il y a une arrogance chez les jeunes. Je te fais remarquer que je suis très jeune.
Mais attends, c'est toi qui as commencé à le traiter de jeune, Dio.
Tu crois que c'est moi qui l'ai dit?
Carrément, tu as dit un jeune homme.
Ah ouais,
il n'a rien fait, il était juste assis là, à vouloir présenter
rien,
ses nouveaux
juste
talents.
Dire bonjour.
Mais c'est ça, mais peut-être que moi, je ne sais pas, j'ai un coup de vieux, tout d'un coup, quelque chose, le temps qui passe, je ne sais pas ce qui se passe.
Bon. Raconte-moi.
Ceci dit, dans ton Au Calme, il est quand même aussi question du temps qui passe, éminemment, dans une chanson d'ailleurs que tu vas nous jouer avec Lucien, ici présent, à la guitare. Avec voilà, ce constat du temps qui passe, mais en même temps de la sérénité qui est la tienne, Enzo. Elle est nouvellement arrivée, cette sérénité, ou tu la traînes depuis très longtemps?
Si seulement elle avait pu tomber dessus comme ça. Non, elle est acquise, elle s'acquiert, mais elle est passagère aussi.
C'est vrai. Ouais.
Donc elle vient de plus en plus vite, elle reste de plus en plus longtemps, et puis parfois elle s'en va, et ça, c'est pas drôle.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement être serein, Enzo Enzo, pour toi? C'est quoi? Comment tu définis cet état de sérénité?
C'est pas courir après autre chose que ce qu'on est. C'est accepter nos limites et en profiter dans un cadre. Tu sais, on dit que c'est à l'intérieur d'un cadre qu'un artiste peut explorer le plus sa créativité. Je pense que quand on sait soi-même qui on est, la nature qu'on a, qu'on la respecte, on peut être soi-même le plus sincèrement possible, le plus intensément possible. Je pense que ça, c'est une bonne manière de regarder. Ne pas être envieux, ne pas se rêver autrement que ce qu'on est, ne pas envier les autres.
Oui, la discipline qui est la tienne, artistique en tout cas, cette expression a contribué à cet état de constatation, en tout cas de lucidité.
Non, c'est le plaisir à force de jouer, le plaisir de découvrir des artistes et des auteurs, des compositeurs et des musiciens, et d'entourer mon univers et mon répertoire avec leur grâce, avec leur talent. Le plaisir de le partager avec eux, ça donne plus d'ailes pour le faire partager, ça sécurise. Et puis, la musique, c'est pas quelque chose à faire tout seul dans son coin. Donc, la sérénité, elle arrive plus on peut s'exprimer.
Alors c'est exactement finalement la ligne éditoriale, si je puis dire, de cet album, du plaisir avant tout, de la sobriété...
De l'acceptation avant tout.
de l'acceptation, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par acceptation sur l'album ?
Vas-y, dis-moi les titres, je vais te raconter au fur et à mesure.
Alors, d'accord. Alors, d'abord ton nom, Enzo Enzo.
Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, c'est l'acceptation, bon. Que c'est un nom très compliqué et que ça je l'ai accepté, je l'ai compris, mais c'est comme ça.
Au calme.
J'accepte d'être en eau calme en ce moment et je bénis la vie de me permettre de naviguer en eau calme en ce moment. Ah, oui, super. Vas-y, continue.
Alors attends, parce que là on va le faire même en musique, dans cet album, au calme, il y a ceci.
Il y a des jours avec. Des jours sans, et les jours sans, il faut faire avec.
Ah, j'adore. C'est genre de trouvailles, ça te dit quand t'écris des chansons, le type, putain, j'aurais dû la trouver moi.
Alors. Mais toi, ça, c'est l'acceptation. Parfois, je me suis. L'autre fois, je regardais, parce que je suis en promotion en ce moment pour célébrer la sortie de cette belle au calme. Et j'étudiais les textes, je me disais, bon, c'était quoi tes sujets, qu'il fallait que je fasse une espèce de synthèse. Et je me disais, il aurait pu s'appeler Lève-toi et marche, fou, continue, tais-toi et avance, plutôt que Lève-toi et marche. Tais-toi et avance. C'est la dynamique, c'est le thème de la plupart des chansons de cet album. Accepte, fais avec ce que tu as et sois heureux de ce que tu as.
Si tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as.
C'est ça.
Notre amour.
Qu'avons-nous, mon amour, qui coule dans nos veines?
Ah, celle-là, la mélodie est magnifique.
Pour n'avoir jamais pu céder au chant de haine. Nous n'avons jamais cru tous deux au grand amour. Celui des rêves bleus sous la lune glamour.
Peut-être ça la recette, Enzo Enzo, jamais croire au grand amour pour finalement le vivre, quoi.
Oui, on peut dire ça comme ça pour cette chanson. Moi, j'aime bien cette chanson d'amour qui parle de quelque chose qui traverse le temps. Réussir à tenir, justement, pas essayer de courir après autre chose, c'est accepter les embûches et puis finalement voir qu'on peut, on peut être heureux de ce qu'on a à vivre. Moi, j'aime bien penser que vivre, c'est pas fait pour être heureux. Enfin, souvent, c'est ça qui complique la vie. C'est vouloir absolument... réussir des choses précises. Mais vivre pour vivre, chaque jour, c'est déjà pas mal.
Cette sérénité dont on parle, quoi, cet état voilà, de quiétude, on l'entend, parce que c'est une évidence, on la voit. C'est-à-dire que, en même temps, ta voix a toujours été... T'as eu toujours une voix très posée, très calme, très douce.
Je la trouve plus belle aujourd'hui, ma voix.
Et qu'est-ce qu'elle a de mieux, selon toi, ta voix, Enzo Enzo?
Bah déjà, je me suis fait opérer des cordes vocales parce que j'avais trop gueulé quand j'étais plus jeune.
Ah, voilà. Parce après, que tu faisais un peu du rock, un peu de musique excitée, quoi.
Un peu. Et puis, j'avais envie de montrer que j'avais du caractère aussi. Donc, parfois, je forçais. Puis, je n'ai pas appris. J'ai commencé à chanter sur le tas, comme on dit. Ce n'est pas très joli comme expression. Et puis j'ai appris à mieux connaître ma voix en la travaillant. On s'était rencontrés d'ailleurs tous les deux à une époque à l'école des variétés où j'ai fait une formation de professeur de chant.
Ouais. Parce avec que Fanny j'avais envie Yadot, qu'on embrasse.
Oui,
aussi,
Fanny,
qui est coach vocal éminente.
Où j'ai appris. Je crois que j'avais envie de savoir pourquoi est-ce que j'arrivais pas à porter plus ma voix. J'avais envie de montrer que j'étais quelqu'un de solide, de généreux. Puis au bout du compte, aujourd'hui, et ça, je le prouve dans l'album Au calme qui vient de sortir, c'est que je peux faire la paix avec l'envie de montrer comme je peux être intense. Ça va. Je peux aimer le hard rock sans faire un album de hard rock. Moi, ce que je suis, ce que j'arrive à faire, c'est quelque chose avec ma voix qui est plutôt douce et j'aime bien être douce. Je suis sensible. Pourquoi est-ce que j'essaierais de faire autre chose? Et puis, tu sais, pour te dire la vérité, Lucien Zérat qui est là, qui peut en témoigner, ouais. Parce qu'on a enregistré dans sa maison et c'est lui qui m'a aussi porté en disant « Mais écoute, on m'appelle Co dans la vie. » Tu es comme ça, arrête d'avoir envie d'être mieux, de t'appliquer trop, etc. Il m'a convaincue et que je pouvais me contenter d'être ce que j'étais. Et quand nous avons enregistré, j'étais dans une tempête, n'est-ce pas, Lulu? J'étais vraiment très tourmentée. Ce qu'il y a de génial, si tu veux, c'est que... Oui, mais justement, c'est incroyable. Ça qui est incroyable. C'est y a quelque chose de toi qui est au point, qui est centré. Et quand tu le fréquentes et que tu le laisses s'exprimer, ben finalement, c'est ça qui gagne. Et c'est ça que tu entends aujourd'hui, Yvan. C'est ça que les gens entendent sur Au calme. Tu dis comme tu as l'air douce. Ben j'en suis capable, oui.
C'est super, c'est une leçon de vie merveilleuse, en fait.
Quand on se laisse aussi entourer par des gens qui vous disent « Mais oui, c'est par là, perds pas de temps, essayez de prouver, de vouloir. » Bon, voilà.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Yvan Cujus et ses invités, rendez-vous de 20h à 21h dans le Loft Music avec des lives inédits. Restez sur Sud Radio, on revient dans un instant avec Philippe Rossi et toute l'équipe d'Evrévoix et leur invité Jean Lassalle. Et avec l'invité de la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Minibus, la journaliste et reporter de guerre Anne Niva. À tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. C'est un plaisir de vous accompagner comme tous les week-ends et de réécouter avec vous des extraits des émissions de la semaine. Et on continue d'ailleurs avec l'équipe des Vraies Voix. Mercredi, Philippe Rossi et ses chroniqueurs Françoise Degoy, Philippe David et Philippe Bilger recevaient Jean Lassalle, député et chef de son parti Résistons, à l'occasion de l'annonce officielle de sa candidature aux élections présidentielles de 2022. Écoutez.
Les Vraies Voix Sud Radio.
Jean Lassalle donc avec son parti Résistons, hein, parce qu'il n'est pas que député Jean Lassalle, il est chef de parti, voilà. Résistons qui a déposé aujourd'hui un projet de loi pour la reconnaissance du vote blanc. Alors son projet a été examiné en commission, c'est comme ça que ça se passe, certains défendent le projet. Jean Lassalle, comment d'abord s'est passé cet examen ce matin ?
D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. J'écoute avec beaucoup de gourmandise vos informations avec Françoise sur les équipes de France et de rugby.
Ah oui.
Et j'aurais voulu vous en dire un petit mot, mais je n'ai peut-être pas le droit là. Alors écoutez, vous le couperez si jamais ça ne va pas. Mais moi j'adore les deux équipes, ouais. Parce que quand même, il y a deux coachs hors du commun, il y a des joueurs hors du commun. La seule chose, c'est que nous avons voté il y a trois semaines à l'Assemblée le climat dans la Constituante, dans l'article 1 de la Constitution française, et on va les jouer dans un pays qui est quand même assez problématique sur le plan de l'environnement, des stades tout neufs construits sur la mer,
oui,
qui ont été climatisés, et tout cela sera commenté par des journalistes sportifs plutôt écolos. J'ai peur que ça fasse un problème. Et moi, je proposerais, voyez, qu'on change d'ores et déjà, parce qu'on a le temps, pour ne pas se pénaliser, qu'on aille peut-être au Brésil ou ailleurs.
C'est vrai. Hein,
c'est pour 2022.
La morale sur la salle, c'est mieux vaut Qatar que jamais, c'est ça?
Pas mal.
Elle est pas mal.
Ouais, elle est bien, il faut quand même le reconnaître.
Mais alors, je l'ai déjà fait hier.
À deux mois de l'événement, et ce n'est pas les sportifs qui pourront parler, parce que les sportifs se sont préparés très bien comme d'habitude, mais ce seront des voix multiples dans le monde. Voilà, je voulais simplement dire
ça. Très bien, ça c'est pour la petite parenthèse Coupe du Monde 2022. Revenons à nos moutons, j'ai envie de dire, Jean Lassalle. L'examen donc en commission aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la reconnaissance du vote blanc, c'est ce que vous demandez, Jean Lassalle ?
Oui, je le demande depuis très longtemps,
oui,
d'ailleurs. Et dans mon dernier ouvrage, Aurore au crépuscule résistant, j'ai expliqué le pourquoi. J'observe depuis, j'étais maire pendant une quarantaine d'années, et en partant de mon village, j'ai bien vu, pendant des années, les électeurs venaient joyeux voter. Et en même temps, c'était très solennel, et on les sentait portés par ce devoir. D'ailleurs, tant qu'ils n'avaient pas voté, on les sentait presque chargés par le fait de mettre ce bulletin. Et puis, au fil du temps, ils ont commencé à baisser, leur nombre a baissé, moins que dans les villes, mais quand même, il y en avait un peu moins. Et puis, les dernières élections, ils étaient presque gênés. J'ai compris pourquoi, c'est parce qu'ils ne se retrouvaient dans aucun des projets, ni dans aucun des candidats qui se présentaient. Or, il se trouve qu'en même temps, vous avez vu, il y a eu tout l'épisode Front National, et puis maintenant l'abstention qui atteint des sommets. Mmh. Or, cette présidentielle 2022 est à mes yeux un virage. Mmh. Et soit nous l'abordons franchement et nous redonnons la parole aux citoyens qui va redevenir peuple, ou alors nous faisons semblant une fois de plus de ne rien voir. Mmh. Et moi je pense que ça ne se passera pas bien. C'est pour ça que le vote blanc permet, alors comptabilisé, hein, c'est-à-dire véritablement comptabilisé, comme si c'était le vote de X
bien
ou
sûr.
Y.
Et ça diminuerait l'abstention, hein, fortement, j'imagine.
Ah, je suis sûr.
Est-ce que vous voulez, Jean Lassalle, qu'on mette le vote obligatoire en contrepartie ?
Non.
Ah non, pas du tout, parce que ça ne correspond pas du tout aux Gaulois que nous sommes, et même aux Gaulois améliorés par tous ceux qui sont passés chez nous depuis. Et, la France a cette singularité, c'est qu'elle aime. Elle adore la politique, elle ne l'a pas perdue, elle déteste les politiciens et les partis politiques, mais elle aime la politique, la vraie politique, celle qui définit notre destin. Donc si vous y mettez une once d'obligation, vous mettez tout par terre, parce que le Français doit faire 5 km pour échapper à une obligation.
Oui. Mmh. Alors, Françoise voilà. De Gouet et Philippe David sont tout à fait d'accord avec vous, Jean Lassalle, sur le vote blanc. Philippe Bilger.
Moi, je suis absolument d'accord à 100% avec Jean Lassalle.
Parler, Françoise.
Sur le fait qu'en plus, on ne rend rien d'obligatoire, car je suis certaine que si le vote blanc est pris en compte comme vous le souhaitez, moi, je suis une militante depuis des années, je suis sûre que ça va ramener les gens aux urnes.
Alors, ça, c'est sûr.
C'est évident.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et rendez-vous dès lundi de 17h à 19h avec Philippe Rossi et toute l'équipe des Vraies Voix, les chroniqueurs et leurs invités. On continue avec un extrait de la matinale de mardi. Patrick Roger et Cécile de Minibus recevaient la journaliste grand reporter et reporter de guerre Anne Niva, venue présenter sa bande dessinée Dans la gueule du loup. L'occasion de donner son avis sur la place des femmes dans le monde du journalisme. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Bonjour. Alors, dans la gueule du loup, parce que c'est une expression pour montrer que vous vous y jetez, vous-même, journaliste, on va y revenir, et puis en même temps, les gens qui sont là-bas pour vous guider sur le terrain, des gens que vous allez retrouver, c'est ça, le démarrage de la bande. Je ne vais pas tout dévoiler, mais quand même, le démarrage, c'est que vous retrouvez Mahmoud et Abdel, donc du côté de Nice, ville touchée par les attentats et qui ne se sentent pas bien. Et vous les avez croisés auparavant sur votre route.
Enfin, le terrain de guerre. C'est Nina, hein, c'est mon héroïne Nina, qui est une jeune
journaliste. Alors oui, c'est vrai. Oui, oui.
Et qui croise effectivement deux combattants. Oui. Un en Tchétchénie et l'autre en Irak.
Oui, voilà, c'est ça. Parlons de ce métier. Avant de revenir aussi sur la bande dessinée, parlons de ce métier. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'égalité homme-femme, de reporter. Oui. Ça a été dur de s'imposer comme grand reporter dans un milieu qui était encore considéré comme assez machiste quand même, non ?
Vous pouvez parler au présent. Hein.
Oui. Encore aujourd'hui ?
Il y a beaucoup plus de femmes que précédemment dans ce milieu, et c'est très très bien, mais ça ne veut pas dire que le milieu n'est pas resté relativement machiste. Mais ça ne m'a pas empêché de faire mon métier. Donc ça a été dur. Bien sûr que ça a été dur, mais c'est dur pour toutes les femmes, dans tous les milieux, dans tous les métiers. Donc moi, ma façon d'être féministe, c'est de justement faire. Agir, montrer que c'est faisable. Donc moi, je ne me posais pas toutes ces questions quand j'étais jeune, à me dire « Ah, je ne vais pas y arriver ». Je ne partais pas battue, en fait.
Ouais.
Je partais, d'aucuns pourront dire aveuglée, mais avec une énergie qui était l'énergie de celle qui se dit qu'elle va y arriver. J'avais envie de comprendre. Et donc, qu'il y ait plus de reporters hommes que de femmes sur le terrain, ça m'est complètement égal. De toute façon, moi, généralement, sur le terrain... En gros, je ne croise pas mes collègues.
D'ailleurs, on le voit dans cette bande dessinée où vous ne les croisez pas et vous êtes avec vos guides sur le terrain, notamment en Tchétchénie. Et c'était une difficulté supplémentaire aussi peut-être d'être une femme à l'époque en Tchétchénie. D'ailleurs, il vous le dit, c'est Mahmoud, en disant « Oui, mais une femme là-bas, elles sont plus au foyer qu'autre chose. »
Cette BD, je l'ai écrite, ça fait 20 ans que je rumine, si je puis dire, tout ça, que en fait, mon métier de reporter de guerre a un impact sur moi. Je vis avec, je réfléchis. Cette BD, si je l'ai faite aujourd'hui et non pas plus tôt, c'est parce que justement, il m'a fallu un certain temps...
Pour digérer ?
Oui. Pour digérer et pour pouvoir reparler de tout ça, et en lançant quelques messages, quelques clins d'œil, et c'est fait exprès que je fais dire à ceux qui sont dans cette BD, à mes héros de cette BD,
parce qu'il y a un peu de fiction quand même.
Voilà, et effectivement, je veux insister sur le fait que on dit toujours que oui, je suis. C'est vrai qu'on m'a souvent dit et on me le dit encore, mais. Vous êtes une femme, et genre, comme si ça voulait dire, donc, qu'est-ce que vous faites là, quoi, en gros
ouais,
vous
avez
pas votre place. Sur le terrain, Anne Niva, il y a quand même, en tant que femme, des règles à respecter, et que d'autres, que les hommes n'auraient pas, par exemple.
Alors, effectivement, mais il y a, sur le terrain, quand on est reporter sur le terrain, il faut
effectivement... Parce que les conditions de vie sont difficiles.
Observer le terrain, et pour l'observer, il faut, en tout cas, selon moi, le moins possible biaiser les choses, c'est-à-dire, il faut se faire le plus discret possible. Donc, effectivement, étant donné que je suis une femme, j'adoptais le mode de vie et la façon de vivre et l'attitude des femmes pour être discrète, pour pouvoir presque voir sans être vue. Par exemple, quand je revais l'abaya et la burqa en Afghanistan, où même le visage est dissimulé, effectivement, ça me sert à moi, journaliste occidentale, parce que du coup, je peux passer inaperçue. Mais en même temps, ça me permettait de me rendre compte des rapports hommes-femmes dans ces sociétés qui ne sont pas les mêmes que chez nous et pouvoir en parler. Mais moi, mon seul but quand je suis sur le terrain, c'est d'avoir des infos. le plus d'infos possible. Donc, s'il faut s'habiller comme une femme locale, je le fais, bien sûr.
Mais même avec les équipes, parce que pour ceux qui ont fait des tournages avec des équipes, les équipes de tournage sont souvent très masculines, et c'est quand même des vestiaires de garçons. Donc, oui, en tant que femme, c'est parfois difficile, la promiscuité, l'intimité, on dort dans des conditions, vous n'êtes pas dans des hôtels 5 étoiles, donc voilà, c'est ça.
Non, mais là, vous parlez d'autre chose. Là, moi, je parle de tout ce que j'ai fait, que donc mon héroïne Nina fait sur le terrain, en presse écrite.
Oui.
C'était pas une équipe du tout de tournage. Beaucoup plus tard dans ma vie, donc assez récemment, là, j'ai commencé à faire des tournages. Et c'est différent, complètement différent, ça n'a rien à voir. Et justement, je ne peux pas avoir la même intimité, je dirais presque, avec mes interlocuteurs, interlocutrices sur le terrain, quand il y a des hommes dans mon équipe.
Bien
c'est
sûr.
Très compliqué. Et souvent, je me suis dit, il faut que je prenne des caméramans femmes, etc., etc. Donc ça, c'est des questions qui restent entières, mais qui sont dues à plusieurs choses. Il y a d'abord les relations hommes-femmes, et ensuite, ne l'oublions pas, il y a quelque chose que nous n'avons pas ici, qui est une situation de guerre. Quand il y a une situation de guerre, tous les rapports humains sont faussés.
Mmh. Ouais. Bah, vous le racontez, hein, avec certaines situations, quand vous êtes sous le déluge des bombes, du feu, bien sûr, en Tchétchénie, notamment, que vous allez vous planquer, en fait, au sous-sol, c'était ça. Et ça, pour le coup, c'est pas de la fiction, c'est ce que vous avez vécu, rencontré.
Ben, bien sûr, aujourd'hui, là, c'est pareil, plus le temps passe, plus je m'éloigne de ces guerres que j'ai couvertes, mais qui restent, vous l'avez compris, dans ma tête. Mais je vis avec mon temps. Je vois bien que un jeune d'aujourd'hui, pour lui, ça n'a aucune importance, cette guerre qui a eu lieu en Tchétchénie ou ailleurs. Mais pour ceux qui avaient le même âge que moi à l'époque, ça avait de l'importance parce qu'on en parlait beaucoup à l'époque. Donc tout est une question finalement d'attitude et de respect qu'on a par rapport au passé. Et c'est surtout de se rendre compte que le passé a des conséquences encore sur le présent. C'est ça qui est important.
Oui.
Donc moi, avec cette BD, et quand même, l'ère du temps, c'est quand même beaucoup parlé, parce qu'on parle de choses par obsession, c'est-à-dire on parle du djihad, on parle, et puis tout d'un coup on n'en parle plus. Donc là on parle du Covid, donc on ne parle de plus rien d'autre, etc. Mais ça ne veut pas dire que les problèmes sont réglés. Regardez que là on est face quand même à cette situation où les enfants des Français djihadistes qui sont en Syrie on se pose la question sur vont-ils revenir ou pas. Comment ça, ce sont des questions importantes. Donc on ne peut pas à chaque fois oublier tout ce qui s'est passé et reprendre la discussion de façon hystérique.
Et c'est vrai que là ça fait 10 ans, la guerre du Syrie a 10 ans, on en parle très peu en fait.
On a juste à peine dit qu'il y avait un anniversaire, que je trouve le mot d'ailleurs
assez
maladroit.
Bien sûr.
Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit en fait. Il faut continuer à aller sur le terrain. Voilà. En fait, cette BD, pardon de vous couper, pour moi, c'est une ode au journalisme
au
terrain.
Non, mais totalement. J'allais venir à ça, justement. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui penser journalisme au long cours pour exister? Est-ce qu'on peut le faire exister?
Bien sûr.
Parce qu'on est à l'heure des réseaux sociaux où un phénomène de zapping très important.
Oui,
quoi. On va
oui.
chercher une petite phrase, on l'extrait, etc. On a des vidéos qui nous viennent du monde entier.
Oui.
Oui, du monde entier, mais sans avoir véritablement la légende. Quoi. On a cette photo, mais on n'a pas la légende.
Exactement.
Vous faisiez en allant sur place pour raconter quoi.
Bon, alors d'abord, je voudrais dire que ce que je faisais, je n'étais pas la seule à le faire.
Non,
et
non.
Je ne suis toujours pas la seule à le faire. C'est-à-dire que nous sommes quand même un certain nombre de journalistes de terrain, même si effectivement l'atmosphère aujourd'hui est à autre chose, parce que le terrain est réputé coûter plus cher, et encore ça se discute, parce que moi je peux vous dire qu'en Tchétchénie, je ne coûtais rien du tout, étant donné que je ne dépensais rien.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Patrick Roger et Cécile de Minibus et leurs invités, rendez-vous lundi de 7h à 10h dans le Grand Matin Sud Radio. Et ne bougez surtout pas, on revient dans quelques minutes avec André Bercoff et son invité, l'historien Bernard Lugan. A tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. C'est un plaisir de vous accompagner chaque week-end. Avant de retrouver André Bercoff dans tous ses états et son invité Bernard Lugan, on va s'écouter le dernier son d'Eddy de Préto. Il y raconte ses débuts quand il gagnait sa vie en reprenant des classiques de la chanson française à bord des bateaux-mouches. C'est d'ailleurs le titre de ce hit déjà addictif. Voici Bateaux-mouches sur Sud Radio.
Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateaux-mouches, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances de sourire pas très cash, fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triplet dessert, je reculais l'attente, des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en toc que je prenais pour scène, je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Maquillé au pinceau, un solo pour mariage, avec costume cello et l'odeur du fromage. Je posais comme il faut, les gens menaient pas large. Je me sentais parfois trop, entre rêve et noyade. J'étais lui qu'on ne voit pas, qui se glisse entre les tables. J'entends du Rihanna, avec un accent grave, qui sourit à chaque fois, pour faire plaisir mesdames. Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Quand j'étais personne, plein de petites taffes d'automne, je rêvais d'idoles. je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau. Début, début, début. Beau. Début, début, début. Je découvrais Paris,
je découvre l'étranger.
Viens d'où il fait gris,
où on laisse tout trop laid.
Les monuments crarés,
emportés comme jamais.
Je n'avais qu'une envie,
m'installer sur ce pavé,
à chanter toute ma vie.
Pas les chansons des autres,
j'en avais dans le vent.
Pas du saumon le nôtre,
j'attendais patiemment.
Monter sur le trône,
qu'on reprenne mes chansons.
Comme je reprends vie en rose.
Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau. Début, début, début. Beau. Début, début, début. Je devais quitter mes Nike, les laisser sous le bateau. C'était pas assez classe pour l'image de ce show. Je n'avais qu'une hâte, leur montrer ce que je vaux. Montrer combien je fake, les gentlemen à l'eau. Le soir je m'improvisais, la vedette du bateau. En maquillant mes souhaits, au parfum du ghetto. Tous les soirs je trinquais, rêve fou de mon ego. En attendant je réglais mes grands rêves au chapeau. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau. Début, début, début. Beau. Début, début, début. Beau. Début, début, début. Beau. Début, début, début. Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif.
Bateau mouche dans le meilleur de Sud Radio, titre annonciateur du nouvel album d'Eddie de Pretto qui sortira courant 2021. On poursuit maintenant avec André Bercoff dans tous ses états. L'animateur recevait jeudi Bernard Lugan, expert au tribunal international de l'ONU et historien enseignant l'histoire de l'Afrique à l'université de Lyon 3, à l'occasion de la sortie de son livre intitulé « Pour répondre aux décoloniaux, aux islamo-gauchistes et aux terroristes de la repentance ». Écoutez.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états.
Et il n'est pas inutile, il ne messied pas que les Français écrivent aux Français de temps en temps pour leur rappeler un certain nombre de choses. En tout cas, très 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 pamphlétaire effectivement, et qui va, mais il a l'habitude, Bernard Lugan, qui va lui attirer un certain nombre d'attaques en flamme, mais lui aussi n'hésite pas à utiliser le bazooka quand nécessaire pour répondre aux décoloniaux, aux islamo-gauchistes et aux terroristes de la repentance. Livre auto-édité, mais qu'on peut évidemment se procurer chez Bernard Lugan. On vous donnera l'adresse du site. Alors, Bernard Lugan, en fait, allons plus loin. Vous avez parlé effectivement de la montée chez les universitaires. Comment effectivement. Et vous parlez d'endogamie. Comment ça?
Alors, exemple très simple. L'histoire de l'Afrique en France est un mouvement totalement endogame. Car le recrutement se fait par les copains, par les petits copains, et uniquement dans certaines écuries. Par exemple, cette écurie qui va nous expliquer que les ethnies sont des créations coloniales. Alors, si vous dites que les ethnies ne sont pas des créations coloniales, vous n'avez aucune chance de faire carrière à l'université. Vous avez l'école qui va vous dire que la colonisation est véritablement quelque chose d'épouvantable. Alors, pendant 30 ans, ces professeurs, alors citons-les, les grands noms de l'africanisme français, Kokri-Vidrovitch, qui va décrire l'africanisation, la colonisation comme un acharnement pathologique des Blancs contre les Africains. Vous avez Jean-Pierre Chrétien ou Jean-Louis Hamsel qui vont nous dire que les ethnies ont été créées ou amplifiées ou codifiées par la colonisation. Alors, j'ai dit souvent...
Oui, la réalité, alors.
La réalité, mais vous avez 1500 à 1800 ethnies en Afrique. Il y en a 4 ou 5 qui, effectivement, ans, ont eu des acronymes qui ont été créés par la colonisation par mesure administrative pour regrouper quelques petits groupes très épars, mais les autres ethnies existaient bien sûr avant la colonisation. Et je dirais même, c'est beaucoup plus grave, dire que les ethnies n'existaient pas est un mépris pour les Africains. Ça veut dire que avant...
Les ethnies ont quoi, des siècles de...
Ah, oui, elles ont, certaines ont des siècles, d'autres ont plusieurs générations.
D'accord.
Et, quand la colonisation se fait, les ethnies existent. Et nier l'existence des ethnies, c'est une insulte à l'Afrique. Ça veut dire que les Africains étaient une masse indifférenciée qui ont attendu des colonisateurs européens jusqu'à l'existence de leur propre identité. Oui, et c'est un mépris profond de l'Afrique.
En fait, c'est un mépris qui frôle le
racisme.
C'est
un mépris profond. Oui, oui. Alors moi, qui suis un ethno-différentialiste et un ethnologue, qui vois le réel, qui travaille avec... Mes deux thèses sont portées sur les ethnies africaines. Je dis, mais c'est de la folie. Alors quand pendant des décennies, vous avez ces enseignants qui expliquent aux jeunes Africains que les ethnies n'existaient pas et que s'ils disent qu'ils appartiennent aux Bambara, aux Baoulé ou autres, c'est qu'ils sont mal décolonisés. Si en même temps, vous leur dites... Vous avez énormément souffert. La colonisation vous a brimé. La colonisation vous a massacré. La colonisation vous a génocidé. Eh bien, vous avez le courant décolonial. Le courant décolonial qui va résulter directement de cette immense responsabilité des africanistes français et des sciences humaines. Et je parle des africanistes
qui sont acharnés sur la victimisation.
Ah, complètement, 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 complètement. Je suis vraiment très bien placé pour le dire parce que j'étais le seul africaniste dissident au sein de l'université française. D'ailleurs, heureusement, j'ai fait beaucoup de boxe française dans la vie. Je suis un combattant et un homme de duel. Donc, j'ai toujours fait face. Mais j'imagine d'autres collègues qui n'avaient pas, comment dirais-je, la tripe siranesque qui est la mienne. Ils se sont écrasés. Ils se sont écrasés. Et l'africanisme français, aujourd'hui, est aux mains du courant décolonial. Et ceux qui ne sont pas des coloniaux sont lâches. Et ils se taisent.
Alors prenons un exemple, la députée, parce qu'elle a été au centre de beaucoup de polémiques, la députée France Insoumise Danielle Obono, qui à chaque fois parle effectivement de décoloniale, etc., de cette France. D'ailleurs, elle n'est pas la seule qui est raciste systémique. Hein. On dit France raciste systémique.
Ça veut dire génétique. Ça veut dire génétique.
Ça veut dire pratiquement génétique.
Génétique. Bon.
Et alors prenons cet exemple.
Bah, je lui consacre un chapitre.
Oui, exactement. C'est pour ça que...
Elle a beaucoup de mal, pour un historien et pour un ethnologue, à se présenter comme une victime. Parce qu'elle revendique son appartenance à deux grands peuples africains, qui sont deux grands peuples éminemment respectables, les Fang et les Pounou. Or, les Fang et les Pounou sont deux peuples conquérants qui ont réduit en dimitude les peuples conquis dans toute la région.
En esclavage, ça veut dire.
En esclavage.
Oui.
Et qui ont vendu, effectivement, un certain nombre de conquis aux esclavagistes européens. C'est une histoire qui est parfaitement connue. Je cite toutes les références concernant cela. Les Fang et les Pounou, deux grands peuples, qui ont pris dans leur tenaille prédatrice tous les peuples de la région de l'Ougoué.
C'est, où, c'est situé où
Gabon, Gabon Congo-Brazzaville. Et quand vous voyez Madame Obono qui se présente comme une descendante de victime, ben ça fait éclater de rire l'africaniste que je suis. Et les africanistes connaissent le pays. Ce sont des peuples qui sont des peuples expansionnistes. Ce ne sont pas des peuples passifs. Ce ne sont pas des peuples qui subissaient. Ce sont des peuples qui étaient moteurs, conquérants et prédateurs.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver André Berkoff dans tous ses états, rendez-vous bien sûr tous les jours de 2h à 14h. Je vous propose qu'on réécoute maintenant un extrait du 10h midi de jeudi de Valérie Expert. Pour le traditionnel coup de cœur, coup de gueule, l'animatrice et ses débatteurs sont revenus notamment sur les mairies écologistes et les budgets genrés. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Petit coup de gueule et petit coup de cœur sur ce qui a retenu votre attention. Jacques Myard, on commence avec vous.
Eh bien écoutez, volontiers Valérie.
Oui.
C'est un coup de gueule contre, je dirais, la volonté d'un certain nombre de communes dirigées par des écologistes d'avoir des budgets genrés. Alors là, évidemment, je dois dire que le néologisme demande quelques explications, c'est-à-dire qu'on fait des choix en fonction du genre, notamment en matière d'investissement. Alors, mettons les choses au point. Bien évidemment, personne ne va, et c'est déjà pratiqué depuis longtemps, qu'il y ait des toilettes séparées pour hommes ou pour femmes. On est bien d'accord, des vestiaires séparés aussi dans les stades. Mais dès lors à avoir au-delà, je dirais, une démarche sexiste pour dire ça, il faut qu'on agisse de telle manière pour les femmes, telle autre manière pour l'autre, sur des histoires de bancs, sur des histoires de stades, etc. Les bras m'en tombent, le ridicule ne tue plus. Alors, sur le plan constitutionnel, il faut bien voir que ces braves gens, parce que c'est directement contraire à l'égalité des sexes, on ne choisit pas en fonction d'un sexe pour un certain nombre d'investissements, on fait des investissements dans l'intérêt général. Hein. Mais bien sûr, ils ne vont pas le présenter sous un côté sexiste. Ouais. Alors, ce n'est pas toujours évident. Donc, sur le plan politique, il faut dire arrêtez vos conneries. Hein. Ouais. Arrêtez vos conneries. Et puis, surtout, ayons, je dirais, la volonté. Moi, je suis de ceux, je suis strictement pour l'égalité homme-femme. Et j'ajoute, le talent n'a pas de sexe. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Valérie, vous le prouvez tous les jours.
Oh, c'est gentil. Mais c'est vrai qu'il faut pousser un petit peu, parfois. Enfin, il faut,
Parles qu'il faut se pousser. Comme nous le disait un jour Fabius en commission d'affaires étrangères, effectivement, c'est les quotas qui vont protéger les hommes. Parce que maintenant, ces dames veulent tout, dont acte. Mais elles n'auront pas tout.
Elles ne veulent pas tout. Elles veulent une juste place et surtout une rémunération.
Ben elles l'ont en droit. Et ensuite, en ce qui concerne les activités économiques, je pense que moi, ça, j'ai travaillé, j'ai eu deux femmes chefs. Elles s'en sont remises. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc, ce qui est clair, c'est qu'il faut arrêter les singeries. Bon. Oui à l'égalité. Non à la stupidité.
Bon, c'est dit, Jacques Miard. On va faire le coup de gueule d'Alexis Poulain, pardon.
Alors, c'est un coup de cœur, non, en fait. Ah. C'est un coup de cœur, sachant que c'est un coup de cœur pour la façon dont le président de la République gère cette crise sanitaire.
Bien sûr. Là, vous avez mangé un clown ce matin.
Vraiment, si c'était que moi, malheureusement. Mais entre les slogans dedans, avec Castex, dehors avec Macron, tous citoyens, aller à l'école, c'est rester en bonne santé. Le manque de doses, les colères à répétition du chef de l'État, c'est fantastique. Je trouve ce cirque merveilleux. Moi, ça me met la pêche le matin. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé hier? Alors, y a eu une engueulade parce que Blanquer a menti sur les tests salivaires. Alors, on apprend que finalement, attention, l'Europe a bien fait son boulot. Hein, elle n'a pas commandé assez de doses, mais il ne faut pas dire que c'est nul. Il ne faut surtout pas dire que c'est nul. Et tout ce cirque-là, je trouve, ça atteint sa limite.
C'est le carnaval?
C'est complètement le carnaval de Marseille, mais à l'Élysée, tous les jours, on a effectivement un petit rayon de soleil, avec bien sûr cette gestion. Pourquoi je choisis ce coup de cœur, qui est évidemment, vous l'aurez compris,
ironique.
C'est parce qu'on voit bien que cette gestion sanitaire, c'est vraiment à qui tout double. Emmanuel Macron joue sa peau politique, en fait, dans cette crise du Covid. Et donc, tout est décidé à l'aune de sa potentielle future campagne de réélection en 2022. Et rien n'est décidé, finalement, sur l'objectivité et surtout l'efficacité sanitaire. Donc, on se retrouve avec des choix qui sont certes louables, éviter d'enfermer les Français, pour finir à, si vous êtes 6 dehors, c'est 135 euros d'amende. Et ça, d'une semaine à l'autre. Donc, moi, je trouve ça formidable. On ne sait jamais quelles vont être les lois cyniques du moment. Et on suit comme ça ce feuilleton, parce que moi, j'ai l'impression de regarder un feuilleton à la télé, à la radio, dans la rue. Alors, vous voyez, ces pauvres policiers, vous dites, est-ce qu'ils vont mettre une amende? Est-ce que j'ai bien mis mon masque, mon Dieu? Est-ce qu'on n'est pas 6? On se compte. Et puis, voilà. Et c'est dingue qu'on accepte ça depuis un an. Et là, je trouve que ces dernières semaines, quand même, ça s'est accéléré, parce qu'on sent que, évidemment, la campagne présidentielle entre, on va en parler tout à l'heure, et donc les mesures sont de plus en plus débiles. Donc bravo, mon coup de cœur va pour cette gestion de crise sanitaire.
Alors, un tweet ce matin que j'ai récupéré, je pense que c'est un médecin ou un pharmacien, qui dit « C'est confirmé, nous n'aurons pas les 3 flacons dont les 60 rendez-vous sont programmés ce samedi. Monsieur Macron, monsieur Véran, chez nous, on dit grandiseux, petit faiseux. » Donc voilà, dans le concret.
Les vaccinodromes, donc vous avez les stades qui ouvrent et ils attendent les doses. Ouais. C'est-à-dire que les vaccinodromes sont ouverts. On a dit vous aurez les doses. Si vous voulez prendre un rendez-vous, j'ai le cas, j'ai demandé, vous avez, c'est pas avant mi-avril.
Voilà. Alors, puisqu'on est dans l'absurdité, dans le monde de Kafka et Dubu, concernant les autotests pour la Covid, c'est un mail que j'ai reçu de quelqu'un m'a fait suivre. Il ne faut pas espérer de vente en grande surface pour tout de suite, parce que malgré les déclarations de Jérôme Salomon, Carrefour a déclaré avoir commandé 1 million de doses d'autotests, mais leur vente reste interdite pour deux raisons, le manque d'un marquage CE sur la boîte et le besoin de faire des tests. Ce test se fera d'abord sur les populations étudiantes en mars, avant un déploiement plus large mais restreint à certaines catégories, outre-mer, lycéens et étudiants, population précaire. Ensuite, les autotests seront commercialisés uniquement en pharmacie. C'est on est chez les dingues, Rafik Smati, quand même.
Le monstre technocratique est en roue libre. En ce moment, on ne sait plus du tout où il va. Enfin, c'est absolument incontrôlable. Je vais vous raconter une anecdote personnelle qui m'est arrivée hier. Je suis allé dans une grande surface avec mon fils et je souhaitais lui offrir un Scrabble.
Ouais.
Il était environ un petit peu plus de 17 heures. L'horaire est important.
Ouais.
Je m'approche du rayon qui, je l'avais oublié, était condamné. Je demande à la vendeuse si néanmoins je peux me procurer le Scrabble qui est 1m50 devant moi.
Ouais, ouais, bien sûr.
Elle me dit non, c'est pas possible, vous devez passer commande sur Internet et vous le récupérez dans 2 heures. Sauf que dans 2 heures, évidemment, on est couvre-feu et il est 19h et il est fermé. Donc je lui dis comment je fais. Elle me dit mais vous le récupérez demain matin, monsieur, il n'y a pas de problème. Et donc j'essaye de parlementer, de négocier et elle est absolument désolée, elle ne peut rien faire.
Ouais.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis rentré chez moi.
Et vous avez commandé sur Amazon.
Et comme je n'ai pas le temps pendant la journée et que je n'avais pas le temps ce matin d'aller me rendre dans cette grande surface, eh bien j'ai commandé à mon grand regret ce Scrabble sur Amazon et j'ai la certitude que mon fils va le recevoir peut-être ce soir ou demain matin.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Valérie Expert et ses invités, rendez-vous dès lundi dans le 10h midi. Allez, on va revenir dans quelques minutes avec la chronique de Cédric Cizère qui a répondu comme d'habitude en humour à vos messages et c'est sur le répondeur de Sud Radio. Restez avec nous.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
De retour pour la dernière partie du meilleur de Sud Radio. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Avant de retrouver la chronique de Cédric Cizère, on va s'écouter un titre du grand Stevie Wonder, paru en août 1985. Un véritable tube qui a atteint la première position des classements Billboard Hot 100, Billboard R&B, Hot Dance et Adult Contemporary, faisant de Stevie Wonder le premier artiste à atteindre la première place des 4 classements distincts avec le même titre. Voici Part-Time Lover sur Sud Radio.
19h dans le meilleur de Sud Radio, l'un des plus gros tubes de Stevie Wonder, extrait de son album In Square Circle. Comme chaque week-end, on va terminer en humour avec la chronique de Cédric Cizère. Lundi, il a répondu à vos messages laissés sur le répondeur de Sud Radio et il en a profité pour revenir avec humour, bien sûr, sur l'annonce officielle de Jean Lassalle aux élections présidentielles de 2022. On l'écoute.
Et il a téléchargé toutes les attestations possibles et imaginables. Il y en a 24 pour venir avec nous. Bonjour Cédric Cizère.
Bonjour mes chers compatriotes, vous allez bien?
Oui, très bien.
Oui, alors aujourd'hui, je voudrais avoir une pensée pour Jean Lassalle. Pour lui, c'est la journée la plus difficile de l'année.
Et pour quelle raison?
C'est la journée mondiale de l'eau. Ah là, c'est compliqué pour lui. Vous savez, c'est un peu. Ben là, je pense à lui. C'est sa kryptonite, l'eau pour lui. Hein. C'est comme moi, les cheveux, c'est pareil. Mais je suis content parce qu'il se représente aux élections en 2022.
Ah oui ?
Et moi, je le soutiens, même s'il avait fait 1,21% en 2017. C'est le seul candidat qui a un taux d'alcoolémie plus élevé que son taux de vote.
Non, mais écoutez, non, si. Dites pas des choses
mais
comme ça.
D'ailleurs, il faut arrêter avec ces rumeurs sur Jean Lassalle et l'alcool, parce que les politiciens ne boivent pas d'alcool, vous le savez.
Bah non, ça se saurait.
Bah, ça se saurait, et ça fait peur, parce que ça veut dire que les décisions que prend notre gouvernement, il les prend en étant sobre. Et ça, c'est fou quand même, je trouve ça très fort. Et en parlant de décisions magnifiques, je suis obligé d'évoquer ceci.
Femme des années 80, oui, femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi la malgré.
Vous chantez pas avec moi?
Non, c'est non, pas karaoké, pas le matin. Non,
pas le matin.
C'est magnifique. De voix.
Vous avez reconnu Johnny Hallyday, bien sûr.
Oui, bien sûr. Oui.
Alors,
Michel,
vous avez reconnu. Donc, il a été, c'est numéro 1 sur la liste de priorité des Français. Michel Sardou a été fait commandeur de la Légion d'honneur vendredi par Roselyne Bachelot. Les artistes, ils n'ont plus d'argent pour décorer leur maison. Alors donc, elle a décidé de les décorer, les artistes. Vous voyez, c'est ça qui est fort. Et Roselyne, elle annonce quoi, deux jours après? Eh bien, qu'elle a le Covid.
Oui.
C'est terrible. Alors, une auditrice m'a laissé un message à ce propos.
Bien sûr.
Eh oui.
Bonjour Cédric, je suis Cathy, j'habite dans l'Yonne, le département de Guirou et des serial killers. Quand je pense qu'on critique Michel Sardou alors que c'est un mec qui a le cœur sur la main, vendredi, Roselyne Bachelot lui a donné la Légion d'honneur et en échange, il lui a filé le Covid.
Ah bah oui, c'est vrai. Alors on ne sait pas dans quel sens c'est en fait, ça peut être l'inverse aussi. Hein. Ça peut être Michel Sardou, il a été enlacé par Roselyne Bachelot, vous avez vu ça. Et Roselyne est à l'isolement, voilà, ça fait deux fois en une semaine, puisqu'au César aussi elle était isolée. Voilà, elle était cachée dans les toilettes, souvenez-vous de ce truc-là. Alors elle va pouvoir regarder les films au moins, c'est bien, mais à mon avis pas de films français. Hein. Je pense qu'avec ce que les comédiens lui mettent depuis 8 mois, je pense qu'elle préfère encore regarder un film suédois muet de 4 heures qui traite de l'invention du meuble Lars Beck de chez Ikea pendant le krach boursier de 1929.
Ouais, c'était pointu, mais c'est pas mal.
Mais vous l'avez vu ce film, hein?
Oui, c'était génial.
Très très bon film, il fait 7 heures. Alors, on se souvient des masques qu'il fallait pas porter, puis devenus obligatoires. On se souvient d'AstraZeneca qu'il fallait plus et qu'il refallait. Avec eux, ça démarre, ça s'arrête, ça redémarre. On dirait une Citroën BX, ce gouvernement. C'est un peu ça, quand même. Oui, c'est ma voiture. Je suis désolé, c'est ma voiture. Alors, bien entendu, ce week-end, on a entendu parler d'une seule chose. C'est quoi? C'est l'attestation. Voilà, l'attestation. Et oui, vendredi, il fallait absolument une attestation, même pour aller demander de l'huile d'olive à sa voisine. C'est ce que j'ai fait.
Pour 16 départements.
Oui, bien sûr. Je parle de 16. Oui, mais on parle beaucoup de ça. C'est pour ça que j'en parle. Samedi, il n'y avait plus besoin. Terminé. Alors, j'ai regardé la définition du mot attestation dans le dictionnaire. Parce que j'ai un dictionnaire, le Petit Robert, de 1990.
Ah, c'est vous qui l'avez.
C'est moi qui l'ai. C'est très lourd. Hein. C'est un acte ou une pièce qui atteste quelque chose. Eh bien, effectivement, ça atteste que si nous, on ne peut pas aller plus loin que 10 km, ce gouvernement n'ira pas plus loin que 2022.
Ah oui,
c'est l'attestation qui dit ça.
C'est votre définition.
C'est l'attestation, Et il y a un certain Didier qui m'a laissé un message pour nous raconter une anecdote qui a dû arriver, à mon avis, à beaucoup de Français de ces 16 départements ce week-end.
Écoutons.
Bonjour, je suis Didier, 33 ans, de Bourg-le-Roi. Juste derrière Bourg-la-Reine, j'ai téléchargé l'attestation pour aller me promener à 8 km de chez moi. Bon, le temps d'imprimer les 14 pages et surtout de les remplir pour moi, ma femme, mes 3 enfants et mon chien, m'a fallu 4 heures. Hein. Et au moment où je vais pour enfin sortir, j'apprends que le gouvernement a annulé l'attestation.
Oui, ça a été assez rapide.
Il y a beaucoup de gens comme ça hein, qui ont eu ce problème.
Alors,
c'est fou. Alors ce gouvernement, vous avez vu, c'est un petit peu comme mon père quand il me punissait. Il me disait « Quoi? T'as eu 3 en maths? Allez hop, interdiction de sortir pendant 2 ans. Et cette fois, je peux te dire que je céderai pas. Hein. » 2 heures après, il me laissait aller en boîte de nuit avec sa voiture et sa carte bleue. C'est un peu la même chose, ce gouvernement, c'est pareil. Allez, fini la rigolade, hein, on ferme tout. Bon, à part les coiffeurs, les chocolatiers, les fleuristes, les cordonniers, les concessionnaires automobiles, les blanchisseries, les assurances, les hôtels et même les bibliothèques. Mais qu'est-ce qui est fermé en fait? Je sais pas. Si. Ah si, nos gueules. Ouais.
Oui.
Parce qu'on dit rien en fait. Nous, on se tait, on accepte.
Sauf à Marseille hier.
À Marseille, mais parce qu'on n'accepte rien à Marseille. Vous savez bien, on accepte, on est tellement habitués. Alors le problème, c'est que vous avez vu qu'Emmanuel Macron, il dit que c'est pas un confinement. Il dit que ce sont des mesures de freinage. Je trouve ça joli. Voilà, ça, on appelle ça un confinement, c'en est pas un. C'est comme un logement à Paris. Ça s'appelle un appartement, mais en fait, c'est pas un appartement. C'est un cagibi.
Ah oui, c'est ça.
Eh oui, tout dépend du nom. Et puis, pour finir, comment ne pas évoquer l'événement télé du week-end? Patrick, je sais que vous connaissez les sextapes. Est-ce que vous connaissez maintenant la castex tape? Castex-Tay.
Pas facile à dire.
Ah bah c'est dur à dire. Bah oui, c'était sur LCI, sur CNews, sur BFM, c'était enfin Jean Castex qui s'est fait vacciner contre AstraZeneca.
Ah oui.
Avec AstraZeneca.
Façon Olivier Véran.
Ah oui, bien sûr, Olivier Véran, bien sûr. Alors voilà, c'était pour se remettre
pas
de
même
sa...
muscle.
C'est pas pareil, c'était pour se remettre de sa conférence de stress de la veille. Ouais, parce que moi je dis plus conférence de presse, hein, dès qu'il y a Castex, c'est fini. Et j'attends les résultats. Par conséquent, tout le week-end, Jean Castex a chanté cette chanson à Olivier Véran.
Vaccinés, on était tous les deux vaccinés, avec nos chemises remontées. Olivier est plus musclé que moi, ce tarba.
Eh ben oui, Castex s'est fait vacciner en live. Ben oui, c'est une belle chanson.
C'est vrai qu'il s'est pas mis torse nu comme.
Alors, j'ai enquêté. Alors il a dit qu'il n'avait rien senti, parce que pourtant d'habitude il est très très douillé. La grande question politique, c'était de savoir si Jeannot allait se mettre torse minu.
Ben oui.
Ben oui, comme Olivier Véran. Moi, je me posais cette question parce que Olivier Véran, depuis ce jour-là, maintenant, il est entré dans le top 3 des personnalités les plus sexy du monde, après Georges Clooney et Patrick Roger.
Ah oui, quand même.
Ah oui, ils sont trois. Ah oui, ils sont trois. Alors Jean Castex, il est comme nous, il peut plus aller à la salle de sport. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, si je mets une chemise à ma taille, je peux pas remonter la manche gauche jusqu'en haut. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son équipe, son conseil de styliste, il me faut quelque chose de beaucoup plus large. Il s'est donc fait coudre une chemise XXXXXL, très très large. C'était plus une chemise, c'était un parachute. Comme ça, hop, il l'a remonté jusqu'en haut.
C'est ça.
Personne n'a rien vu. C'est une technique.
Alors, on a vu les coulisses, ça y a.
C'est les coulisses. Moi, je dévoile tout et on va savoir en exclusivité qu'est-ce qu'il arrive à Jean Castex. Est-ce que ça va depuis sa vaccination? On n'en sait rien. Patrick, il n'est pas bien. Alors on part à Matignon tout de suite.
Française, Français, le gouvernement vous confirme que je n'ai aucun effet secondaire après avoir été vacciné à l'AstraZeneca.
Très bien.
En revanche, pas d'inquiétude, je ne me suis pas fait vacciner contre les décisions à la con.
Ah, on est rassuré alors, ça va. J'avais très peur qu'il perde sa qualité principale quand même, ça aurait été dommage.
Ouais, il n'est pas le seul responsable.
Non,
c'est
sûr que non.
Je pense que c'est.
Oui, il annonce.
C'est collégial.
Oui, c'est collégial.
C'est collégial.
C'est mixte. Oui, c'est ça. Collégial et le principal responsable, c'est quand même le garagiste.
Exactement.
C'est le garagiste.
C'est qui?
Bah oui, c'est Emmanuel Macron.
Ah, c'est-à-dire
que oui, parce que il parle maintenant de freinage.
Oui.
En fait, il répare vos véhicules. Il parle de freinage, de confinement hybride. Donc voilà, donc il va.
Et il se cache.
C'est un futur concessionnaire.
C'est vrai. Ah, c'est pas
automobile.
Mal. On sait ce qu'il va faire après en 2022.
C'est-à-dire qu'il anticipe sa reconversion, d'accord.
Il est très fort. Voilà. Bravo, bravo. Bah, on est très dans les métaphores aujourd'hui.
Ah, oui, fort,
avec la BX et tout.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Cédric Cizère, que vous pouvez retrouver du lundi au mercredi à 8h20 dans le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Minibus. Merci d'avoir été avec nous. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Soyez au rendez-vous. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Excellent week-end à tous à l'écoute de Sud Radio.